Voilà, je passe la parole maintenant à Jules Falquet. Merci. Merci à Jules Falquet
qui a la dure mission de discuter.
Je te présente un petit peu quand même.
Oui, je veux.
Voilà, qui est sociologue, qui est suffisamment connu de toute façon dans le. Pour que j'ai pas besoin de rentrer dans le détail et qui va faire la discussion de cette session. Merci.
Alors peut-être je vais dire malgré tout que je suis sociologue, j'enseigne à l'Université Paris Diderot et je suis membre du CEDREF, le Centre pour les enseignements, la documentation et la recherche en études féministes, dont la responsable est ici présente dans la salle, qui est un des plus anciens centres de recherche féministe parisien et peut-être même de la partie française du Maghreb. Voilà, Azalé en étant la responsable.
Merci Jules, merci.
Et maintenant, merci au Maghreb de m'avoir invité pour parler un petit peu de Fatima Mernissi. En fait, je suis assez émue et un petit peu, en espagnol, il y a desfraudada, je ne sais pas très bien comment dire en français, mais un petit peu, parce que je n'ai jamais connu personnellement Mernissi. Mais par contre, une fois justement, une personne en a parlé devant moi et m'a donné l'impression de l'avoir vue en personne, et c'était Nawal El Sadawi, mais en fait, elle nous a raconté exactement l'anecdote qui est dans le bouquin, donc je suis un peu bon, voilà. Elle nous disait, voilà, un soir j'étais chez moi, toute seule, j'entends frapper très fortement à la porte.
C'était quand ça?
Elle nous a raconté ça il y a longtemps, à l'époque où il y avait un colloque à Jussieu sur guerre des sexes organisé par Christeva, et elle avait invité Nawal El Sadawi, et je me trouvais aussi là pour...
Du vivant de Fatima.
Oui, du vivant, mais par contre Fatima n'était pas là. Et elle nous a dit, mais j'étais très... j'avais peur, j'ai fait semblant, j'étais seule, mais j'ai fait semblant que mon mari était là. Et c'était une grande femme qui... Voilà. Et ensuite, le reste que j'ignorais, mais enfin, voilà. Finalement, elle ne faisait que raconter. Voilà. Peut-être qu'en fait, elle venait de l'écrire. Peut-être c'est pour
la
ça. Et voilà, exactement. Et en fait, mes premières lectures de Mernissi, c'était une amie algérienne qui me l'a fait découvrir, en particulier Le prophète et les femmes, justement, dans tout le cadre de la discussion de quel est le rôle de la religion, etc. etc. Et ça m'avait énormément intéressée, bien sûr. Et puis après, une amie marocaine m'a fait découvrir Le rêve. Il s'agit de Nassima Moujoud qui m'a présenté davantage la sociologue et notamment la sociologue des femmes rurales, hein, qui insistait beaucoup sur
Nassima Moujoud qui devait venir
justement. Tout à fait. Et qui insistait beaucoup sur Mernissi comme une précurseuse de la réflexion sur le travail dans le monde maghrébin et le travail des femmes rurales et tout un tas de questions. Et du coup aussi, j'ai pu avoir accès à un certain nombre de publications qui, je pense, ne sont pas très faciles à trouver en France, mais parce que je me suis retrouvée à lire plein de livres de Mernissi, comme les Haïts des Brouilles, comme le harem de la taille 38. Et j'avais lu aussi à un moment donné Une enfance au harem, mais, et ça je trouve que c'est très intéressant, évidemment, en effet, il y a une petite note disant je n'ai pas du tout grandi dans un harem. D'ailleurs, le harem n'existe pas forcément dans le monde maghrébin, enfin bref. Mais c'est vrai que c'est assez frappant de voir qu'un certain nombre de personnes ont pris ce roman comme une vérité, un témoignage de son histoire, etc. Donc, pour reprendre un petit peu, revenir sur ce que vous avez, dit, peut-être, je ne sais pas, pour essayer d'ouvrir sur des questions, c'est vrai que c'est frappant, et j'avais aussi quelque chose qui me traversait l'esprit tout le temps pendant que vous parliez, puisque vous avez quand même beaucoup parlé de la question de l'importance de la culture, de l'art, de son rôle dans les ateliers d'écriture, et voilà, et son roman, je ne sais pas si elle a écrit d'autres romans, en fait, que Une enfance au harem, c'est le seul. Mais ça me fait penser, même si c'est une personne complètement différente, notamment en termes d'origine de classe, et puis aussi en termes de parcours académique, hein, mais ça me fait penser à Gloria Anzaldúa, dans le sens d'insister sur, donc une féministe chicana, également décédée, d'insister sur l'importance de ne pas uniquement travailler dans le domaine académique, Mais en effet, d'amener des contenus, on va dire, artistiques, culturels, dans les luttes féministes. Ça, c'est quelque chose qui me traversait l'esprit au moment où vous parliez. Vous avez beaucoup parlé de son travail sur la sexualité. Et en effet, voilà, c'est une sociologue et une féministe et une académique multifacétique, puisque sexualité, la question du droit, quand même, d'une certaine manière, à travers sa relecture du Coran, d'une certaine manière, toute sa dimension artistique et culturelle, et aussi donc la dimension, je suis désolée de ne pas avoir pu venir ce matin, mais je faisais cours, donc toute sa dimension de sociologue, son travail sur le travail, des femmes rurales. Donc vraiment, je pense que c'est une auteure très importante et précurseuse ou précurseur dans de nombreux domaines. La question qui me taraude le plus peut-être et sur laquelle vous pourrez peut-être revenir, c'est en effet, vous parlez beaucoup de la transmission, de l'histoire, de cette histoire à écrire, de cette histoire non seulement de chaque pays, mais d'un mouvement et d'une réflexion qui englobe l'ensemble du Maghreb dans une conception large, vaste, étendue, diasporique et tout ce que vous voulez. On voit bien l'importance des années 80. Et puis, entre 91 et 2011, il y a une espèce de vide assez important. Et donc, là, je ne sais pas ce qu'on peut en dire, mais je pense qu'il y a des choses à en dire dans les trois pays, sûrement, ou dans les quatre avec la Libye, cinq avec l'Égypte, six avec la France et sept avec les autres pays. Donc, voilà, je ne sais pas, peut-être. Et c'est une période à laquelle, il me semble, elle-même, Mernissi, a été très active. Donc, ouais. qu'est-ce qu'on peut ajouter à tout ça? Bon, alors peut-être je vais faire ça comme ça, et je pense que la salle aussi a plein de remarques, de questions, donc je serai peut-être pas plus long que ça.
Jules, donc
moi j'ai déjeuné, j'ai rencontré pour la première fois Fatema Mnissi quelques jours avant qu'elle meure, et c'était la première fois, et nous avons déjeuné ensemble. Et quelques jours avant, elle était toute vraiment solaire, elle riait. On était plusieurs femmes en déjeuner. Puis j'avais l'impression de la connaître. Pourtant, physiquement, je ne l'avais jamais rencontrée. Et j'ai posé un sujet qu'on a discuté à ce moment-là, qui était le suivant. Comment les femmes sont elles-mêmes les propres obstacles à ce qu'elles défendent, lorsqu'elles rentrent dans des conflits et des jalousies. Et je parlais du fait qu'on observait que différentes associations étaient en rivalité, que des thèmes étaient monopolisés, etc. Et je posais ça sur la table. D'autres femmes disaient « Ah oui, tout à fait, complètement, c'est vrai. Les femmes sont très dures avec elles-mêmes et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont capotes à cause de ça. » Et à ce moment-là, elle nous regarde de manière assez surprise. Là, en vous réécoutant, je comprends aussi les choses qu'elle voulait dire. Elle a dit « Ah oui ? Moi, j'ai jamais vécu ça. » Puis se retourne vers une ancienne combattante et elle lui dit « Tu es d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire, quoi ? La nouvelle génération serait comme ça ?» Et l'autre a dit « Ben oui, c'est vrai, on n'a pas vécu ça, mais il paraît que ça commence à être chaud. » Voilà, je voulais vous parler de ça et vous demander de réagir par rapport à ça. Est-ce qu'à ce moment-là, ces mouvements féministes qui démarraient, est-ce qu'ils se faisaient des clans, des haines, des rivalités, des jalousies? C'est-à-dire qu'il y a deux femmes et elles sont capables de se mettre dans la guerre, j'allais dire. Mais bon, voilà, c'était ma remarque et ma question. Merci.
Ah oui, c'est vrai. Myriam Rodari, rebonjour. C'était par rapport à ce que vient de dire Jules. Je pensais dans une citation que j'ai reprise ce matin, d'ailleurs, elle parlait de elle distinguait je ne sais plus comment elle disait, mais elle disait Afrique arabe à propos du Maghreb pour bien l'inscrire aussi dans l'Afrique. Et du coup, par rapport à la transmission, je voulais lancer cette piste et savoir si vous aviez quelques éléments à nous apporter là-dessus sur les échanges. Alors, vous avez beaucoup parlé des échanges entre pays du Maghreb et savoir jusqu'où va le Maghreb, c'est intéressant aussi. Mais aussi, dans l'Afrique, justement, je pense qu'elle était assez proche de Fatima Sow aussi, non? Ou c'est moi qui me fais cette idée? Oui, je sais qu'elle a participé aussi. Bon, il y a des articles qui sont issus de rencontres avec de femmes africaines. Et moi, c'est ce qui m'avait marqué aussi, outre la question du travail que j'ai développé ce matin, mais tu n'étais pas là, Jules. C'était aussi cette inscription du Maroc, puisque moi, je travaillais sur le Maroc, plus dans un contexte africain. Et à plusieurs reprises, elle revient là-dessus, même quand elle parle des femmes rurales, notamment, sur la similitude, alors que ça ne se faisait pas du tout dans la sociologie maghrébine à l'époque, de comparer avec le Sénégal, avec l'Afrique de l'Ouest en général. Voilà, et je voulais savoir du coup au niveau des échanges, ce que vous saviez de, là-dessus en général.
J'ai une question égoïste un peu. Je m'intéresse parce que j'ai travaillé sur énormément sur le féminisme islamique. Et ça m'a toujours un peu travaillé le shift que Fatema al-Marnissi fait d'un féminisme séculier à un féminisme islamique. Et dernièrement, moi j'avais ma théorie, j'ai pensé qu'elle avait changé de position parce qu'elle était dans un groupe de recherche avec Ahmed Khamlichi au Maroc, un alim et un expert de la religion qu'on peut qualifier de progressiste et qui fait la différence entre fiqh et sharia, qui est une distinction très importante pour militer pour les droits des femmes au sein de l'islam. Comme quoi, la sharia, c'est divin. On ne peut pas peut-être ne pas toucher, mais le faire est humain, est une construction humaine et tout ça. Donc, mais dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit ce n'était pas vraiment Khamlichi. L'influence, c'était Mohamed Talbi en Tunisie. Mmh. Alors, ma question, elle est pour vous. Est-ce que, dans le cadre du club Tahar Haddad, est-ce qu'il y avait question à cette époque de cette perspective nouvelle? Quelle était la relation avec Mohamed Talbi? Est-ce que c'est d'abord, est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que c'est possible comme piste? C'est tout.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces belles interventions. Enfin, je m'appelle Louis Amr Mimat, titulaire d'un master en études de genre de l'Université Paris 8. En parlant de la Tunisie, que pensez-vous de la nouvelle loi sur l'égalité entre femmes et hommes dans l'héritage? Est-ce que cette revendication a été portée par le mouvement? Quels sont les principaux défis des mouvements féministes au Maghreb? Voilà.
J'ai une question par rapport à la transmission et la question de la langue, en fait. Comme aujourd'hui, le colloque est en langue française et beaucoup d'écrits, les écrits de Fatima Mennissi au début étaient aussi en langue française. En anglais et après en français. Et donc, est-ce que la question de la langue au début du féminisme maghrébin, c'est-à-dire utiliser soit l'arabe, soit le dialecte même, donc même pas l'arabe classique, est une question qui s'est posée à cette époque-là? Et est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à une réappropriation aussi des dialectes et des langues indigènes ou amazighes dans les mouvements féministes actuels? Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer et est-ce que c'est quelque chose aussi qui joue un rôle important lorsqu'il s'agit en fait de sortir de la tour d'ivoire ou de certaines couches élitistes dans les sociétés maghrébines et pouvoir toucher les femmes et les jeunes femmes aussi au niveau du terrain en fait et dans les couches plus populaires?
Moi, j'ai pas parlé de grand chose, mais ce que je voulais dire, c'est par exemple avant Fatima, il y a eu Nawel Saadawi. Nawel Saadawi est venu en Tunisie. Et moi, j'étais journaliste et je l'ai accompagnée dans des lycées. Les jeunes étaient très intéressés. Et c'est quelqu'un qui a rassemblé les femmes pour devenir féministe. C'est-à-dire, après son arrivée, après ce contact avec les Tunisiennes, il y a eu le club. Elle a eu un rôle important. Et elle avait les livres et sur la sexualité, c'est ce qui intéressait le plus de gens, le plus de jeunes. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a la notion d'affidamento, yani, donner confiance aux femmes. L'affidamento, c'est comme ça que la transmission peut se faire. C'est quand on fait confiance à d'autres femmes qui ont eu une expérience avant nous et qui, par exemple, moi, je suis venue au féminisme à partir de... Moi, j'étais journaliste. Je suis allée voir Noé Sardé, où elle était dans un hôtel à Tunis. Et Noé, elle m'a parlé de l'excision. Et moi, je ne savais pas qu'ils allaient jusque-là, jusqu'à enlever la possibilité de jouir pour les femmes. Et ça, ça m'avait... Et j'ai écrit deux articles sur ce journal pour en parler. Et c'est ce qui m'a amenée au féminisme. Yanni Nawel, c'est à travers ce... Et j'étais avec deux hommes qui étaient aussi... deux journalistes qui étaient aussi très choqués parce qu'ils avaient entendu. Jamais... j'ai vu des films égyptiens toute mon enfance avec ma mère et toutes les semaines, mais on n'a jamais parlé d'excision. Mais l'excision, c'est quelque chose de tellement horrible pour moi. C'était et donc il y a cette transmission et ce rapport. Maintenant, je viens de le savoir entre Fatima et Nawel, qui est normal aussi. Nawel est plus âgé et Fatima, qui a c'est quelqu'un qui a son but, c'était de transmettre. Elle a beaucoup fait pour venir jusqu'en Tunisie, pour faire ce... Et ça n'a pas été facile, mais elle l'a fait. Elle l'a fait aussi au Maroc, bon, là où elle pouvait. Et après nous, on l'a fait aussi au Maroc. Mais au Maroc, ça ne s'est pas aussi bien passé, parce qu'il y avait aussi des hommes dedans, par exemple. Il y a eu une écriture, mais qui a été malmenée, parce que celui qui devait s'en charger, qui était un homme qui, lui, n'avait pas écrit, mais il était dans l'atelier... Il a massacré ce qu'on a écrit. L'édition était très mauvaise, avec plein de fautes. C'est un truc à refaire complètement. C'est important aussi d'être entre femmes, pour être dans la confiance. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la transmission maintenant avec Choftu Honna, est-ce que vous les avez vues? J'ai vu... une nouvelle radio où il y a des jeunes et elles ont fait des, elles sont allées, parce que ça s'est passé dans la Médina, c'est-à-dire dans un théâtre, dans un lieu d'art, dans un lieu culturel qui est une vieille bâtisse qui appartenait au B et qui maintenant est devenue un théâtre, où il y a les meilleurs en fait qui gère ce théâtre. Et c'est dans un quartier populaire. Alors, elle est allée demander aux hommes, parce que c'est les hommes qui étaient là au café, elle leur a demandé si Choftu Honna, est-ce que vous les avez vus? Alors, au début, oui, on les a vus, elles passaient comme ça. Mais c'était extraordinaire. C'est un lieu traditionnel où il y a surtout des hommes au café et qui se mélangent avec ces femmes, avec les cheveux comme ça, avec les plein de tatouages. Et tout était bien, tout se passait très bien. Enfin, c'est assez extraordinaire. Moi, je trouvais ce mouvement très important, très intéressant de Choftu Honna. Et j'étais moi-même... je suis heureuse parce que je sens que ça continue et ça continue de mieux en mieux. Il y a de moins en moins d'obstacles intérieurs. Il y a de plus en plus de liberté. Et ça me donne du courage. Ça me donne de l'optimisme. Et je suis sûre que ça va aller de mieux en mieux. Et l'art, c'est très important. Très, très important. Le théâtre. Je fais partie d'un truc de théâtre là-bas. Des choses faites par des femmes extraordinaires. Il y avait aussi beaucoup d'hommes. Beaucoup d'homosexuels et non-homosexuels. Il y avait un mélange absolument incroyable. Voilà. C'est-à-dire, j'ai de l'espoir pour l'avenir, pour les jeunes. Je pense que les jeunes sont moins peut-être formatés que nous, comme on était avant, bien qu'on a essayé de se... Voilà, donc l'affidamento, c'est se fier aux femmes, se fier à leurs paroles, se fier à ce qu'elles sont, pour aussi avancer, ne pas toujours compter sur ce que disent des hommes.
Alors, très brièvement, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le papier. Et bien, bon, il va y avoir la publication, j'espère, bientôt. Alors, donc, il faut comprendre quelque chose, surtout je m'adresse à Jules, c'est que notre histoire dans le Maghreb, c'est une histoire faite d'embellie, mais aussi de longues années de plantes. Et il s'est fait que les embellies n'ont pas toujours concordé. Alors, les années 80, la Tunisie a vécu une très grande embellie, l'Algérie aussi, alors que le Maroc était plongé dans des années de plantes, si bien que la Tunisie était devenue la plaque tournante du féminisme maghrébin. Donc, c'était... dans les années 90, c'était devenu le Maroc. Et le Maroc, notamment Bin Louiden, c'est-à-dire l'appartement de Fatima Mernissi. Donc, c'était devenu la plaque tournante. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a des photos de nos ateliers chez Fatima. On était assises par terre, on partageait tout ça. Donc, voilà. Donc, la relève a été prise dans les années 90 par le Maroc, quand je dis par le Maroc, et notamment, c'était l'initiative de Fatima qui voulait coûte que coûte qu'on continue le mouvement, là où nous, on ne pouvait plus en Tunisie et alors encore moins en Algérie. Donc, c'est un peu ça. Et bien sûr, les années 2000, c'était des années un peu dures. C'est pas que le mouvement féministe a disparu, mais le mouvement féministe, en fin de compte, pratiquait la survie dans un contexte de répression. Et là, ce que nous vivons en Tunisie, c'est une autre embellie après la révolution. Donc juste, c'est un peu de façon schématique. Alors, les rivalités. Bon, tout d'abord, je comprends pourquoi Fatima répond comme ça. Parce que Fatima dit, en fin de compte, ça ne sert à rien de venir débiter sa colère. Si vous êtes en colère, écrivez sur un papier et déchirez-le. Donc, ça, c'est Fatima. Elle-même, elle va te dire, mais non, c'est pas ça. Parce que pour elle, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est ça. Elle est très positive. Elle est très positive dans ce sens-là et parfois au détriment d'elle-même. Parce que c'est dur, hein, après. Bon. Donc, mais aussi pourquoi, en fin de compte, on n'a pas vécu de rivalité. C'est une explication que j'avance au début du mouvement. Parce qu'on était dans l'informel. Le mouvement féministe des années 80, c'était un mouvement informel. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de cadre. Mais, en fin de compte, il y avait le club d'Al-Hadid. Le club d'Al-Hadid qui a donné naissance à la commission syndicale femme, qui a donné naissance aux commissions dans les partis politiques, qui a donné naissance aux commissions syndicales, qui a donné à Nice. Mais en fin de compte, on était dans le networking. Enfin, presque tout était à égalité. Donc, les rivalités ne s'opposaient pas. Quand est-ce qu'ont commencé les rivalités? Quand ont été créées les associations? La faute n'est pas aux associations, mais c'est une autre, finalement, manière de concevoir ces associations. Et ce que je trouve intéressant chez le collectif Chouf, c'est qu'ils sont en train d'essayer une formule d'allier le formel et l'informel. Il y a une tentative, je ne sais pas si elle est consciente d'allier. Donc, il faut aussi imaginer de nouvelles formes, parce que ça aussi, c'est important. Mais ça, très vite. Alors, le problème de la langue. Je pense que le problème de la langue, en tout cas, ne s'est pas tellement posé. Pourquoi? Parce que le mouvement des femmes a multiplié les supports. Et donc, par exemple, pour le 8 mars, on va trouver des sketchs en langue dialectale. Par exemple, on va trouver des expositions, on va trouver de la musique. Et Evelyne Aqad est là. Evelyne Aqad nous a accompagnés très souvent avec sa guitare. Evelyne Aqad a écrit un livre sur le club Tahar al-Haddad, les filles de Tahar al-Haddad. comme transmission. Et nous, comme transmission en duplex, dans le sens inverse, on a joué une pièce qui s'appelle Les filles de Taha al-Haddad à partir de son livre.
Et avec elle.
Et avec elle. Voyez. Donc, un peu, on a multiplié les formes. Et l'art, en fin de compte, n'a pas de langue. Et c'est ce que Chouftouran sent dans cette dynamique. Mais bien sûr, au niveau des écrits, c'est vrai qu'on a beaucoup écrit en français que dans d'autres langues. Mais il y a la traduction aussi qui est possible. Donc, les défis au mouvement des femmes. Oui, elle est partie qui a posé la question. Bon, d'accord. Parce que j'allais lui dire les défis au mouvement des femmes. Actuellement, c'est le politique. C'est le politique qui est un véritable défi. Et donc là, comment repenser le féminisme? Et repenser le féminisme, on va en parler la semaine prochaine chez Christiane. Donc peut-être qu'on va donner l'annonce de ce qu'on va faire la semaine prochaine à propos de repenser, hein, à propos de repenser le féminisme. Mohamed Talbi, dans les années 80, on n'avait pas de contact avec Mohamed Talbi. Mohamed Talbi, et M n'a pu très bien en parler, c'est à partir de 2011. Mais avant, on n'avait pas de contact avec Mohamed Talbi en tant que féministe. Bien sûr, on lisait Mohamed Talbi, Ayallah et tout ça, mais on n'était pas du tout dans ce truc. Pour Fatima Mernissi, je pense qu'elle a rencontré Talbi. Fatima Mernissi venait beaucoup en Tunisie dans le cadre des rencontres de sociologues arabes et tout ça, et elle avait beaucoup d'amis en Tunisie. Elle avait même œuvré pour un Maghreb des intellectuels, mais bien sûr, on a été court-circuités par les politiques, on a créé Duma. Donc, on nous a foutus dans la merde, parce qu'on devait créer le Maghreb, tout d'abord, des intellectuels, et c'est les politiques qui nous ont repris l'idée. Et donc, voilà, et je laisse...
Il y a autre chose que je veux dire, c'est que Fatima, quand on est allé au Maroc, elle nous a invités au Maroc pour un deuxième, c'est-à-dire une atelier d'écriture. Et là, il y a eu, elle a invité aussi des femmes allemandes. Et on a travaillé ensemble avec les femmes allemandes sur la cité idéale. C'est-à-dire, je veux dire qu'elle était ouverte, elle avait une très grande ouverture envers les autres. Il n'y avait pas l'Occident, l'Orient, le Mislam, la chrétienne, il n'y avait rien de tout ça. Elle voulait, et puis elle s'intéressait à l'art, elle s'intéressait au cinéma. Elle a beaucoup travaillé avec Farida Belyazid, qui a fait des documentaires aussi sur les femmes. Elle a fait un film, pas un documentaire, un film qui s'appelle le mari de la femme de mon mari. À la recherche du mari de ma femme, je connais bien. Voilà. Et c'est une critique de la polygamie. Fatima, elle était, et puis elle avait énormément d'humour et de joie. Et pourquoi j'étais très triste de savoir qu'elle était morte, cette femme. Je savais qu'elle avait été malade. Et alors, pour terminer, il y a une femme que j'aime énormément aussi, c'est Essia Jabbar, qui vient de mourir, qui est morte aussi juste en même temps, qui est une femme extraordinaire, qui a écrit des livres merveilleux, mais qui est très peu connue. Parce que c'est une femme beaucoup plus réservée. C'était une femme plus réservée. D'accord.
Alors, la question des conflits et puis sur la question aussi de l'Afrique. Alors, il y avait à ce moment-là une association, l'AFARD, l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, ou sur le développement, qui maintenant, elle existe toujours, mais enfin, elle est tombée dans le truc du féminisme d'État, le féminisme institutionnel. C'est une catastrophe, hein. Ce féminisme, dans nos pays, c'est une catastrophe, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'argent, il y a les ONG qui achètent. Maintenant, on a des féministes professionnelles qui ne fonctionnent qu'aux subventions et qui ne fonctionnent qu'à l'argent. C'est terrible. C'est terrible parce que ça donne des... C'est dans des pays où les gens ne sont pas riches et tout, ça a complètement perverti ces mouvements-là. Des mouvements dont on parle. À l'époque, il n'y avait pas un sou pour les féministes. Et on n'avait pas d'argent, on n'avait rien du tout. Il n'y avait pas de subvention, il n'y avait pas d'association. Donc l'État ne subventionnait rien du tout, sauf si on rentrait dans les institutions du parti, etc. Mais aujourd'hui c'est une calamité parce que c'est il y a plus de contenu, ce n'est que la forme. Alors Lafarde à l'époque, ça a un peu commencé à Lafarde, c'était l'association des femmes africaines et justement Fatema Mannissi, elle n'est pas rentrée dans ce truc. Moi j'ai assisté à quelques rencontres de Lafarde au Sénégal, à Dakar, à Alger. Et très vite, c'est rentré dans les conflits pour la présidence de la Lafarde, des conflits de personnes entre la Sénégalaise et Nawel Serdaoui aussi. Marie-Angélique Savané. Et Nawel Serdaoui aussi, qui, quand même, moi j'ai assisté à une prise de bec avec Nawel Serdaoui, c'était quelque chose. Et justement, Fatema Mennissi, elle n'est pas rentrée dans ces rivalités. Donc, ce n'était pas son truc. Non, elle n'est pas rentrée dans ça. Et c'est dommage parce que moi, je me souviens à Lafarde, par exemple, il y avait Fatma Ousoudir qui était une fervente militante justement de la dimension africaine. Et une fois, on avait été au premier congrès de la recherche féministe à Montréal en 82, le congrès mondial de la recherche sur les femmes, c'est le premier. Et on nous avait mis Moyen-Orient et on s'est retrouvés avec les Israéliennes. Et Fatma Ousoudir a dit, mais vous ne connaissez pas la géographie. Nous, on n'est pas en Moyen-Orient. On va toutes en Afrique. On est toutes parties dans la commission Afrique, y compris... Pardon ? Oui, parce qu'il y avait les Israéliennes, on ne voulait pas rester dans cette commission avec les Israéliennes. C'était pendant la guerre sur l'Israël bombardait le Liban, hein, c'était 82, c'était l'été 82. Et donc on est allé en Afrique et tout le monde nous a suivis, même les Égyptiennes. Tout le monde est venu en dans la section africaine et elles se sont retrouvées toutes seules au Moyen-Orient. Bon, c'était pour vous montrer, c'était marrant d'ailleurs, mais cette dimension africaine qui peut être à un moment donné une ouverture d'ailleurs, parce que l'Afrique c'est quelque chose. Là aussi, notre ignorance est très vaste. Alors sur le culturel, sur la langue, la question de la langue, en fait, on arrive à la dépasser justement par la dimension culturelle. Nous, on faisait beaucoup d'activités, on faisait le ciné-club, bon, on faisait passer des films, ce qu'on avait comme film, et on avait un ciné-club de femmes, et notre devise, c'était qu'on peut dire, on peut faire des débats politiques ou féministes sur n'importe quel film, donc on prenait ce qui venait. On avait des fois les films qui nous venaient des pays socialistes, tout ça, et c'était en arabe. On faisait les débats en arabe dialectal. Nawel Saadawi est venue aussi à Oran, on l'a invitée, et elle a fait une conférence en arabe égyptien, mais les gens comprennent parce qu'il y avait les films égyptiens et tout, donc il n'y a pas eu de problème avec l'arabe égyptien. Et donc la dimension culturelle permet justement d'intégrer la diversité linguistique, c'est vrai que quand on est sur le champ de la recherche intellectuelle et tout, on est plus enfermé dans des langues académiques.
Juste Azadeh et Kian, donc par rapport à la question de Sarah, je suis d'accord avec vous que au niveau culturel, on a vraiment peut-être pas besoin d'une langue spécifique, mais au niveau de la transmission dans les universités, transmission académique, parce que il ne s'agit pas seulement de dire tous les 8 mars on va organiser des pièces de théâtre, etc., mais il s'agit de dire aussi que la transmission se fait dans aussi des universités. Et quand je vois, par exemple, maintenant, ça a commencé au Maroc, maintenant en Tunisie, vous avez aussi les études genre, en Algérie, bientôt, Inch'Allah, comme on dit, etc. C'est aussi vraiment un bien important de transmission. Et là, depuis la politique d'arabisation, on le sait, au Maghreb, moi-même, même en Tunisie, J'ai vu, j'étais témoin au Crédif, la dernière fois que j'y étais, il s'agissait d'une trentaine d'associations de partout qui avaient été invitées. Et donc, je me suis rendu compte que, effectivement, quand on sort de Tunis, par exemple, la délégation des associations de Rafsa était arabisante. Tout le monde n'est pas francophone non plus. Et aussi, du fait de cette politique d'arabisation, mes collègues au Maghreb, je le sais parce que je leur pose la question tout le temps, au Maroc, en Algérie, etc. En Tunisie, je ne sais pas, c'est peut-être différent. Enseigne en arabe, en langue arabe, en sciences sociales et humaines, l'enseignement se fait en langue arabe. Alors que les supports sont en français, en anglais. Et donc, la transmission se fait comment ? C'est ça la question importante qu'on se pose, et moi-même je me pose aussi étant encore une fois de langue maternelle persane, même si j'habite pas en Iran, je sais que vraiment ça pose beaucoup de problèmes cette question de comment on passe, hein? Voilà, transmission. D'une part, et très brièvement, j'avais aussi cette question d'ONGisation des mouvements des femmes qu'on voit de plus en plus aussi à la fois au Maroc, à la fois en Tunisie et peut-être un peu moins en Algérie d'ailleurs pour des raisons qu'on connaît et des financements qui arrivent. Et voilà, peut-on parler aujourd'hui vraiment des mouvements féministes ? Je ne pense pas que la réponse...
Bonsoir. Ça rejoint votre remarque sur le fait qu'on est dans l'ignorance un petit peu de la religion. Je connais une écrivaine marocaine qui s'appelle Asma Al-Mrabat, oui, qui étudiait la question de la femme féministe à partir du texte coranique. Je vous demande, quel est votre point de vue là-dessus ? Est-ce que c'est possible de partir du Coran ou bien c'est la cause de la souffrance de la femme ? Je ne sais pas, moi je veux bien savoir si vous pouvez.
Bon, c'est une vaste question, on l'a un peu abordé ce matin, mais ce matin on a eu un exposé brillant là, de Myriam Yafout là-dessus. Et voilà. Et dans le livre, vous aviez un article aussi dans le livre qui traite de ça. Bon. On va en reparler tout à l'heure avec la table ronde aussi. Oui.
J'ai juste une petite question.
Libano-américaine très connue.
Qui a écrit le livre, justement, sur le mouvement des femmes en Tunisie, dont mes copines sont des héroïnes, là, du roman, Journal de Tunisie, qu'elles ont monté en pièce de théâtre. Bon. Non, ce que je voulais dire en réponse un petit peu à ce qui vient d'être dit sur les ONG et tout ça qui sont récupérés par les gouvernements et tout ça qui sont l'argent qui est récupéré et tout, mais peut-être qu'il faut faire une distinction entre les mouvements qui sont des mouvements d'aide, enfin vraiment qui travaillent sur le terrain, et ceux qui sont là pour se remplir les poches et faire avancer leur carrière. Parce que je peux vous dire que c'est pas très glorieux quand on essaie, comme j'ai fait avec ma sœur, on a monté, on a fondé un abri pour femmes battues à Beyrouth, et on ne trouve pas d'argent pour ça. On a aussi ma nièce, ils ont un abri pour mourir 240 réfugiés par jour qui viennent d'Irak, de Syrie et de tous ces pays. On trouve très difficilement l'argent aussi. Donc peut-être il faut faire une distinction entre l'activisme et les ONG.
Tout à fait. Oui, nous, on a, par exemple, pour la première journée, on a eu une aide de la fondation Rosa Luxembourg d'Allemagne, oui, qui nous a... Non, il faut nuancer, c'est vrai, il faut nuancer. Oui, mais
l'aide n'était pas déterminante.
Non.
Parce que de toute façon, nous, on vient d'une génération qui a toujours appris à travailler sans financement.
Oui, je me rappelle.
Les trois colloques maghrébins que nous avons organisés, alors chacune s'arrangeait pour payer son propre billet d'avion, et les femmes étaient hébergées dans nos maisons, et tous les jours on ramène un couscous.
Mais je me rappelle. Un couscous.
Donc c'était des colloques à zéro millime, et donc c'est si bien que quand on a repris avec les JFM, On était allé voir la fondation en lui disant, de toute façon, nous, on va faire ce projet. Si vous voulez financer des billets d'avion, vous êtes les bienvenus, mais si vous ne financez pas, on va le faire.
Et je me souviens, quand vous avez créé la revue Nissa, j'étais au début, à ses débuts, dans la maison d'Amel, et je me rappelle, vous avez dit, on ne veut pas d'argent.
Oui, on a refusé.
Les femmes cotisaient, même ce qui représentait un mois de salaire.
Et pour la pièce de théâtre aussi, aussi. On pas d'argent. Ouais. Oui. Celui qui nous guidait, il était là parce que c'était mon copain. On n'avait pas d'argent et on était folles. Et on a fait une pièce de théâtre qui s'appelle
Les filles de Tahar Haddad.
Nous qui parlions de notre, chacune parlait de sa vie, de ce qui lui est arrivé.
Et quand c'est
arrivé au féminisme, etc. Attends. Malheureusement, ça n'a pas été. Beaucoup de gens n'ont pas vu cette pièce.
Je voulais terminer parce que je n'ai pas terminé ce que je voulais. Oui, sur la question de la langue aussi, pour dire que Fatema Benissi a été traduite en arabe. Hein, maintenant, toutes ces. Bon, il y a des choses qu'elle a fait en arabe aussi, non? Ou bien en tout cas, toutes ces publications, même. Alors moi, je pensais que la femme dans l'inconscient musulman ne faisait pas partie, mais il paraît que même la femme dans l'inconscient musulman a été rééditée au Maroc. Au Maroc, voilà.
Je l'ai acheté à
Tétouan
dans un souk l'année dernière.
Tu vois, voilà.
Parce que voilà. Quelle édition?
2016, édition Blanche.
Voilà, parce que la première édition est. Oui, oui, la première.
Dans un souk.
Oui.
Quel nom d'auteur? Très important.
Non, c'est Fatna Aït Sabah.
Le nom, elle n'a pas changé.
Elle n'a jamais publié sous son nom. Oui.
Mais ceci dit, quand elle était venue en Tunisie et présentait le livre,
elle l'assumait.
Bien sûr.
Oui, publiquement, dans le club Tahar
Haddad.
Je ne sais pas si elle l'a fait pour la. Je crois que c'était la première fois qu'elle présentait ce livre dans un pays arabe.
J'ai eu une discussion avec elle aussi où elle m'a dit.
Elle l'a présenté. Elle a accepté, elle est venue, elle a présenté.
Voilà.
Et
bon, moi
maintenant, j'ai une information, c'est qu'il y a une traduction en cours en arabe de la femme dans l'inconscient musulman, mais je ne sais.
Hein? C'est Fatima, hein? C'est la marque Fatima.
Ah oui, même celui-là. Donc, voilà. Ok, bon, et je vais donc maintenant, on va conclure cette session et après on aura une petite pause café puis on fera la table ronde qui est importante parce que la question de l'héritage elle est vraiment à l'ordre du jour notamment en Tunisie. Alors pour conclure donc je voudrais remercier déjà tout le monde, les intervenants, les participantes, les discutantes, les